David est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, David.
Bonsoir.
David, vous êtes où?
Je suis à l'aéroport au terminal 3 et entouré de dizaines de milliers de gens qui manifestent. Et donc j'ai dû m'éloigner pour vous parler parce que c'est juste pendant 200 ou 300 mètres tout le long de la route devant les portes d'entrée de l'aéroport. C'est pas chouette. Au niveau des arrivées, c'est pas chouette. On peut rien entendre, quoi.
Absolument. Déjà là, on entend le bruit, mais enfin bon, on comprend que vous êtes au cœur de l'événement. Votre idée, c'est quoi? C'est d'essayer de passer et de bloquer l'aéroport?
Oui, ça fait, c'est une des actions. C'est la journée de blocage qui a été lancée par les organisateurs du mouvement. L'aéroport, c'est un des lieux. Il y a eu beaucoup d'autres lieux. Il y a eu le tribunal ce matin à Tel Aviv. Il y a eu la Knesset un peu plus tôt ce matin. Maintenant, actuellement, dans une heure, on sera devant l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. Ce soir, on sera à Kaplan. Donc, il y a des dizaines d'endroits, de routes, d'intersections qui ont été bloquées par des manifestations. C'est une journée de blocage du pays en réaction au vote qui a été fait comme ça, en plein milieu de la nuit, de la première lecture de cette clause, de l'annulation de la clause de raisonnabilité. C'est un peu compliqué en français, mais c'est tout simplement que
les juges ne peuvent plus censurer, la Cour suprême ne peut plus censurer une décision du gouvernement en disant ça ne me semble pas raisonnable. C'est-à-dire, je pense que c'est pas logique ce que vous avez fait. Juste, je vous demander de faire attention, David, parce qu'on a très envie de savoir ce que vous pensez. De, par exemple, si vous êtes le dos aux manifestants, de vous mettre face à eux, parce que comme ça, votre micro, il est pas, il n'enregistre pas le bruit qui est derrière vous. Mais je voudrais vous poser une question, David, si vous m'entendez correctement. Donc, je rappelle que vous êtes à l'aéroport de Ben-Gurion, à l'aéroport Ben-Gurion de Tel Aviv. Moi, je sors ici en France de plus de 10 jours d'émeute où ils ont pour le coup vraiment tout bloqué. Mais ils cherchaient pas à me convaincre. Ils ont bloqué parce qu'ils voulaient exprimer une colère. Ils se sont pas dit « je vais convaincre Bernard Abouaf ». Ce que j'ai du mal à saisir, c'est que vous êtes descendu dans la rue pour convaincre les Israéliens. Est-ce que vous croyez que vous allez les convaincre de vous rejoindre et de penser que vous avez raison en les empêchant de prendre l'aéroport quand on sait qu'il n'y a qu'un seul aéroport, qu'on a vraiment le sentiment d'être prisonnier si on ne peut pas prendre son avion? J'ai eu tout à l'heure quelqu'un au téléphone, il m'a dit ça peut durer jusqu'à 8 heures d'attente pour prendre un avion alors qu'on n'a rien fait. Que vous bloquez les tribunaux où les gens, Dieu sait que les tribunaux sont surchargés quand on a une affaire qui est compliquée, on a plutôt envie quand même, c'est pas marrant, on veut aller vite. Les routes, c'est pareil. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez convaincre les gens en bloquant le pays?
Alors, d'une part, il faut bien comprendre, hein, le bras de fer, il se fait pas avec la population en général. Le bras de fer se fait avec le gouvernement. Il faut que ça fasse mal au gouvernement qui est en train de légiférer de façon unilatérale et de façon extrêmement violente des lois qui font basculer le régime démocratique vers une démocratie libérale façon hongroise et polonaise. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'heure du moment. C'est dans quelle mesure on est dans un moment historique ou dans quelle mesure on est dans une réforme où on n'est pas content. Non. Aujourd'hui, l'ensemble des gens, et je parle de 2,5 millions de personnes qui sont à un moment ou à un autre descendues dans la rue depuis 6 mois. Aujourd'hui, on parle de 300 à 400,000 personnes qui régulièrement arrivent à Kaplan. On n'est pas là. Bien sûr que ça ennuie des gens. Et on le comprend. Et d'ailleurs, vous savez, cette manifestation, non seulement elle est non violente, mais en plus, je la trouve extrêmement polie. C'est-à-dire qu'on est attentif. On fait attention. Alors oui, c'est gênant. Oui, c'est embêtant. Mais on ne peut pas manifester une colère à l'égard de décisions d'un gouvernement sans embêter le monde. Et je vais vous dire une chose pire que ça, Bernard. Je vais vous dire une chose. Si moi, me fous hors de moi, c'est parce que pendant 20 ans, on était assis sur nos avantages, nos voyages, notre consommation, qu'on a laissé passer, qu'on a laissé monter au gouvernement des gens qui étaient médiocres, des gens qui étaient corrompus. Et c'est 20 ans d'indolence, finalement, où on s'est pas réveillé, qui nous pète à la gueule. Donc, à un moment donné, c'est pas très grave. Si on dérange ici ou là des gens, je suis désolé pour eux, je m'en excuse auprès d'eux, mais la question se joue aujourd'hui d'un point de vue historique par rapport à un gouvernement qui est un gouvernement d'escrocs, qui veut imposer par la force des lois, qui change la nature profonde du régime pour lequel ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont pas de mandat pour ça. Voilà, donc, ok, il y a des gens qui sont gênés, je m'excuse pour eux, mais dans l'ensemble, je vais vous dire une chose. C'est pas compliqué, il suffit de voir la popularité dans les chiffres. 70% des Israéliens soutiennent le mouvement. Pas 30%, pas 20%. 20% des gens qui sont dans la rue, et il y a plus de 70% dans la population générale israélienne qui soutiennent le mouvement. Et vous savez quoi ? Mieux que ça. 32% des Israéliens qui ont voté Likoud soutiennent le mouvement. 6% des gens du Likoud participent au mouvement. Donc nos auditeurs, ils doivent bien comprendre en France que premièrement, ça n'a rien à voir avec les émeutes qui en France. Personne ne brûle rien, personne ne casse rien, aucun policier n'est blessé ou quoi que ce soit. Il y a des arrestations, il y a des blessures. 6 mois de manifestation et il n'y a pas un mort, il n'y a pas un blessé grave, ni du côté des policiers, ni du côté des manifestants. Donc c'est pas comparable. Et oui, ça gêne, je suis désolé, oui, ça gêne. Quand on bloque les routes, on gêne. Quand on bloque l'aéroport, oui, on gêne. Mais globalement, aucune plainte n'a été donnée sur le fait qu'il y a un avion qui a été empêché de décoller. Aucune plainte sur le fait. Alors il y a du retard, c'est gênant, mais on n'a pas empêché, on n'a pas créé des conditions qui soient problématiques en matière de sécurité.
Vous êtes combien là, Ben Gurion, comme ça, vous, quand vous regardez autour de vous, vous êtes combien ?
À vue de nez, on doit être entre 30 et 50 000 personnes. Je ne suis pas capable, puisque vous avez tout depuis l'entrée des arrivées jusqu'à la sortie des arrivées, tout ça est noir de monde.
C'est-à-dire donc, depuis le checkpoint là où on arrive avec les voitures jusqu'à là, jusqu'au terminal.
Quand vous rentrez pour récupérer quelqu'un, il y a un checkpoint. Uh-huh. Bah, imaginez que de cet endroit-là, jusqu'au moment où vous sortez, où il y a le deuxième checkpoint à la sortie, imaginez que c'est noir de monde.
Noir de monde. D'accord. Voilà. Et plutôt bon enfant, d'après ce que vous dites.
Toujours. 6 mois de manifestation.
Mais d'ailleurs, ça bloque pas. Si vous êtes vraiment là où vous dites vous, ça bloque pas. C'est comme si vous, comme vous venez de dire, vous venez chercher quelqu'un. Vous pouvez être 40 000, normalement, ça bloque pas. Mais enfin, bon.
Non, normalement, ça bloque pas. Puisque, de toutes les manières, il y a des cordons de sécurité qui ont été installés par la police, qui permettent aux gens et d'arriver et de partir, et qui sont respectés par les manifestants. Donc, alors évidemment, c'est peut-être un peu gênant. Évidemment, c'est très impressionnant, notamment pour les gens qui arrivent de l'étranger, les étrangers qui arrivent en Israël et qui arrivent avec une telle, un tel comité d'accueil, je dirais. Donc oui, effectivement, c'est particulier. Mais franchement, c'est très, vous savez, les gens qui sont là, c'est pas du tout le public des Gilets jaunes, c'est pas les émeutiers de France. Les gens qui sont là, c'est ce qu'on appelle le sel de ce pays. La plupart des gens qui manifestent, c'est les gens qui sont les serviteurs de l'État, les anciens hauts fonctionnaires des services de sécurité, les anciens colonels. Vous avez ici tous les grands serviteurs de l'État qui portent ce mouvement, et beaucoup de gens qui sont effectivement des libéraux, qui paient leurs impôts, qui envoient leurs enfants à l'armée, et qui sont dirigés par des gens. Vous avez 35% des ministres aujourd'hui qui n'ont pas fait l'armée. 35% qui viennent siéger au Conseil de sécurité et nous expliquer à nous, à nos enfants, comment on va faire la guerre et comment on va agir. Le monde à l'envers, ce qui se passe en Israël est grave ici.
Une dernière question. Je ne comprends pas votre agenda politique. C'est-à-dire que vous manifestez depuis longtemps, donc en plus vous êtes aguerri avec une certaine expérience. Mais c'est quoi votre agenda ? C'est quoi ? C'est ou tout ou rien ? C'est la reprise des négociations à la présidence du président de l'État d'Israël, à sa résidence, pardon. C'est quoi le... Vous avez un objectif, à part on va faire tomber le... On va faire tomber le projet ? Comment on s'en sort, quoi, en fait ?
Non, non. Les objectifs des leaders et des manifestants est de retirer tous les projets de texte. Il y en a 149, 150 projets de texte qui verrouille la démocratie israélienne. Pour l'instant, il n'y en a pas un seul qui est passé, du moins les plus importants. Donc oui, évidemment, c'est de bloquer toute volonté de faire passer, que ce soit en masse ou selon la méthode du salami polonaise, de faire passer des lois qui sont antidémocratiques. Pour l'instant, c'est ce qui s'est passé avec le mouvement extrêmement fort le soir de limogeage de Gallante, le ministre de la Défense, qui a dit « ça suffit, il faut arrêter ». Là, à ce moment-là, la première lecture est passée, mais on s'est arrêté entre la première et la deuxième lecture du loi du changement de la commission de nomination des juges, et on s'est mis à s'asseoir chez le président. Et donc on a déjà arrêté, on a déjà obtenu un résultat. Aujourd'hui, hier, ils ont voté une autre loi qui est un peu complexe à expliquer, et on a manifesté massivement, et l'idée c'est qu'effectivement, ils retirent, du moins qu'ils n'aillent pas au bout de la deuxième et la troisième lecture. Vous savez, Bernard, je vais vous dire une chose. Les lois, si elles passent, si une de ces lois passe, on va au coup d'État. Le coup d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bagat, la Cour suprême, demain, va annuler ces lois en disant ce sont des lois qui sont contraires aux lois fondamentales de l'État d'Israël. Et on a deux cas de figure. Soit le gouvernement se carapate, et ce n'est pas l'esprit qui manifeste actuellement, soit il empêche le Bagat, soit il empêche la Cour suprême. C'est-à-dire, il la contourne, il considère que sa parole ne vaut rien. Auquel cas, ce qui se passe, c'est soit l'armée et la police se rendent à la justice, soit la police et ou l'armée se rangent derrière le gouvernement. Vous imaginez cette crise constitutionnelle? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, soit on les arrête maintenant, et ils vont pas de la première lecture à la deuxième lecture, on revient aux tables de négociation. Mais de toutes les manières, le projet en l'état, point par point, c'est un projet qui affaiblit, voire qui met à genoux le pouvoir judiciaire, pour laisser au pouvoir exécutif la toute puissance.
David, merci. Merci d'avoir parlé directement aux auditeurs de Radio Shalom. Je pense que c'était d'autant plus difficile que vous êtes en pleine manifestation. Vous êtes à l'aéroport Ben-Gurion de Tel Aviv, ce qui, au passage, me donne aussi l'occasion de demander aux auditeurs un peu de, comment dirait-on, d'indulgence par rapport au bruit de fond. Vous êtes en pleine, vous êtes au milieu de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Merci, David. Et merci à vous.
Bonsoir.
À l'aéroport de Tel Aviv. Dominique est en ligne avec nous à présent. Dominique est à Netanya. Bonsoir.
Bonsoir.
Dominique, vous avez décidé de manifester aujourd'hui. On en est maintenant quand même à plusieurs semaines de manifestation. Vous étiez à l'aéroport, par exemple, à l'aéroport international de Tel Aviv la semaine passée. Pourquoi ?
J'étais à l'aéroport la semaine passée. Je n'y suis pas cette semaine. Pourquoi j'y étais la semaine passée? Parce que je pense que la semaine passée, c'était une bonne manière de montrer aux touristes entrants et aux Israéliens sortants notre point de vue dans le plus grand calme, bien que ça n'a pas été si évident que ça de rester calme, mais bon, oui, nous avons pu.
Quoi? Dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Dire que... nous sommes extrêmement inquiets pour le futur d'Israël. Les bases de la démocratie nous semblent vraiment en danger.
Développez, Dominique, pourquoi on est vraiment en danger? Voilà, il y a une réforme judiciaire. Donc, par exemple, jusqu'à présent, un juge a le droit de dire « Je trouve que ce n'est pas raisonnable de nommer Aryeh Deri ministre de l'Intérieur. Voilà, » il est juge. Il a fait des études très brillantes, mais il n'est que juge. Et il vient et il dit, moi, je trouve que ce n'est pas raisonnable. À Ederi, il a un parti qui représente des centaines de milliers d'électeurs. Il y a un gouvernement qui a été élu. Il y a une Knesset qui a été formée. Et cette Knesset, elle a décidé qu'il est ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'un juge, parce qu'il a un beau diplôme, peut décider que ce n'est pas raisonnable?
Parce que c'est son métier. Et que si les diplômes ne servent plus à pratiquer le métier de la justice, alors il faut se passer des études universitaires, il faut se passer des juristes, et il faut laisser le peuple mener le tout. C'est pas possible ce que vous me dites, franchement.
Ceux qui sont pour la réforme, ils vont dire oui, c'est très bien comme ça.
Mais il est quand même évident que quelqu'un qui a été sous le coup d'accusations qui se sont avérées exactes et qui s'est engagé pour ne pas être poursuivi, à ne plus exercer en politique, il est quand même assez logique qu'un juge lui rappelle ses engagements. Si d'autres ne le font pas, si lui-même n'est pas fidèle à ses engagements, ne trouvez-vous pas?
Dominique, ce mouvement va durer jusqu'à où? C'est-à-dire, vous, c'est quoi votre objectif? C'est faire tomber la loi ou rien? Vous êtes prêt à des compromis? Où va-t-on? On en est maintenant à plusieurs mois de manifestation. Vers quoi vous dirigez?
Je suis qu'une petite...
le mouvement.
Je ne suis qu'un membre du public. Je ne peux que constater une chose. Au départ, évidemment, des élections ont amené Benjamin Netanyahou à avoir une majorité... avoir le plus grand nombre de sièges, il ne pouvait pas, je vais répéter des choses que tout le monde sait en principe, il ne pouvait pas former un gouvernement sans s'allier à d'autres partis. Les partis du centre et de la gauche et certains partis de droite aussi, ne souhaitaient plus s'allier avec lui parce qu'ils avaient fait de mauvaises expériences, ils avaient été trahis. Donc, il s'est tourné vers les partis qui sont au gouvernement avec lui maintenant, qui, dont les électeurs ont effectivement élu les représentants. Mais les électeurs israéliens ont aussi élu ceux qui sont dans l'opposition. En démocratie, l'opposition aussi a son mot à dire. Et quand on voit maintenant comme les électeurs même du Likoud ont été déçus parce que ce qui se passe maintenant avec ces projets de loi n'était pas du tout prévu, c'était pas dans le programme, c'était pas annoncé par Netanyahou. Donc ils sont déçus et on voit très très bien que les sondages se sont complètement inversés et que si l'on devait aujourd'hui faire des élections, ce ne serait plus du tout la même coalition qui serait au pouvoir. Donc il est assez logique d'écouter ce que le peuple a à dire.
Et justement, ça ne serait pas une idée de sortie de crise si Benny Gantz et Netanyahou se remettaient d'accord comme ils l'ont déjà fait, donc ce n'est pas forcément inatteignable. Ça ne serait pas une bonne idée, c'est pas une bonne solution pour sortir de crise ?
On pourrait s'imaginer cela. Pourquoi croyez-vous qu'au départ, Benny Gantz et d'ailleurs Yair Lapid sont allés, ont accepté l'idée du président Herzog d'aller négocier ? C'était pour cela. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas un centimètre à gagner de l'autre côté. La négociation, ça se fait de deux côtés, pas uniquement dans un sens.
Donc pour vous, l'idée ce soir, c'est il faut qu'il y en ait un d'eux qui craque. Il est évident que vous ne pensez pas que c'est le vôtre. Et donc vous pensez qu'on est dans une confrontation qui va se terminer par, bah, par exemple, vous concernant l'abandon du projet de loi juridique.
Ben, je ne crois pas, malheureusement. J'aimerais bien, mais je ne crois pas.
Donc la confrontation.
Mais j'espère que non, mais il faut quand même bien comprendre qu'un État démocratique, c'est quatre pouvoirs bien séparés, qui s'équilibrent, qui sont indépendants. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer. L'exécutif, le législatif, le juridique et les médias, par ailleurs, ne sont pas du tout équilibrés dans les nouveaux projets. Et nous n'avons pas de constitution. Mon plus grand rêve, et celui de tous les manifestants avec lesquels je travaille, c'est d'avoir une constitution qui permettrait de garder les principes d'un système démocratique, avec une chambre haute, le Sénat, le contrôle, mais pas le système qui se trouve actuellement sur la table. Ça n'est pas possible.
Dominique, merci. Je rappelle que vous êtes à Netanya et donc vous manifestez à Netanya dans votre ville. Auparavant, tout le monde se regrouperait sur Tel Aviv. Là, cette fois, c'est dans toutes les villes. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir.
Laurent est en ligne avec nous à présent à Tel Aviv. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, Bernard. Je ne suis pas seulement à Tel Aviv. Je suis à Azrieli, au cœur même de la manifestation.
Ah oui, à Azrieli. Oui. C'est un début de manifestation ou c'est la fin, là ? Il est à Paris, il est 19h.
Non, c'est pas du tout la fin. Les gens qui ont été à l'aéroport sont en train de revenir par le train et la manifestation va être gigantesque ce soir.
Pourquoi ? Pourquoi vous voulez une manifestation gigantesque ce soir à Tel Aviv ?
Parce qu'il faut montrer à ce pouvoir rétrograde qu'il est temps d'arrêter de jouer avec la démocratie. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de gauche-droite, puisqu'aujourd'hui même les sondages montrent que 32% des électeurs du Likoud participent, qui ont voté, pas des électeurs, hein, je dis bien, 32% des électeurs du Likoud participent une ou plusieurs fois aux manifestations existantes. Il faut arrêter de dire que c'est une manifestation gauchiste parce que ça ne correspond en rien à la réalité. Vous avez des manifestations aujourd'hui qui sont composées de plusieurs factions de la population, mais ce sont surtout et avant tout les forces vives de la société israélienne qui se révoltent contre un gouvernement rétrograde qui veut nous transformer l'État d'Israël en un pays de la high-tech en Afghanistan. Et nous ne le laisserons pas, nous ne vivrons pas en Afghanistan. Et le problème qu'a ce gouvernement, c'est que les gens qui lui sont opposés sont aussi les gens qui sont et à l'armée les plus hauts, qui sont pilotes, qui sont dans les unités de renseignement. Même, on commence à avoir des prémices de menaces de démission dans les services secrets du Mossad, dans les services de sécurité au Shabak. Les gens se révoltent, les gens ont demandé la possibilité pour la première fois à leur patron de pouvoir aller aux manifestations. Vous pouvez imaginer, vous, un agent de la CIA manifestant contre un gouvernement américain ? Ça, c'est impensable. On en est là. Et le problème aujourd'hui même, je viens de lire actuellement, je viens d'avoir ça sur mon téléphone, les médecins de garde, les médecins, les internes, aujourd'hui se sont fait porter pâle. Si aujourd'hui les médecins ne travaillent plus, les pilotes ne volent plus, les renseignements ne renseignent plus, avec qui on va avoir, qui est en remplacement ? Les enfants de M. Derry, les enfants des ultra-orthodoxes de Golden Knopf, ce sont eux qui vont aller voler dans les avions, ce sont eux qui vont être vos médecins de demain, ce sont eux qui vont être vos services de renseignement. Je ne crois pas. Donc, le gouvernement a un vrai, vrai, vrai problème.
Vous Mais savez, apparemment, vous ne le gênez pas tant que ça, parce que finalement, la réforme, elle avance. Et vous avez même le député Rotman, je l'ai dit dans le journal de 18h, qui dit « Mais d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je changerais quoi que ce soit. » Et quelque part, ils vous disent que vous êtes des mauvais perdants.
Mais ça n'a rien à voir avec les élections. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est que ça n'a rien à voir avec les élections. Ça n'a rien à voir avec les élections. Je vais vous dire encore mieux. Le professeur de Harvard, un des plus réputés en droit, et qui est un grand soutien de Netanyahu, Dernovich, vous connaissez grand soutien d'Israël et de M. Netanyahu, a dit que si aujourd'hui il était israélien, il serait dans les manifestations. Ce sont des gens qui ont voté Likoud. On ne parle même pas des gens de gauche. Laissez tomber la gauche israélienne. La gauche israélienne n'existe pas. Laissez tomber la gauche israélienne. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'un gauche-droite. C'est un problème entre les gens qui comprennent qu'on est en train de nous transformer en Afghanistan, en Hamastan, en Bnei Brakstan. Nous ne serons, nous n'accepterons pas, nous ne vivrons pas et nous ne soutiendrons pas à nos frais des populations qui ne font rien, ni d'un point de vue sécuritaire, ni d'un point de vue, ni d'un point de vue du travail et qui ne participent en rien à la construction de la cité israélienne. Lorsque quelqu'un a dit hier à la commission, hier sur la high tech que 50% des gens qui travaillent dans la high tech sont d'origine russe, tout le monde était révolté d'avoir ce genre de statistiques. Mais c'est la vérité. 50% des gens créés dans la tech aujourd'hui sont d'origine de l'Union soviétique. Ce sont les gens qui sont venus en 1990 de l'Union soviétique qui aujourd'hui ont construit la tech. Vous comprenez le problème de ce gouvernement ? C'est qu'ils n'ont pas une alternative avec leur propre électorat. Je suis désolé de le dire comme ça. Non, c'est pas sympa, mais c'est la vérité. Et la vérité, parfois, Laurent, elle n'est pas sympathique.
Laurent, vous venez de conclure cette émission. Donc vous êtes devant les tours Azrieli à Tel Aviv.
Alors, pour le moment, je travaille à mon travail jusqu'à 10h. Et après 10h, je vais manifester.
Laurent, merci.
En direct de
Tel Aviv. Cette émission avec donc ceux qui s'opposent à la réforme est à présent terminée. On est parti à Tel Aviv, Netanya, on était à l'aéroport Ben Gourion.